Radio Grand Ciel présente D'art et d'histoire, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Jean-François Roland. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, je reçois Jean-François Beige, président des Amis de la Ferté-Vidame, écrivain d'histoire et membre de l'Académie du Béarn. D'ailleurs, nous l'avons reçu pour Ravaillac, l'assassin d'Henri IV, et aussi un ouvrage que je vous recommande, chers auditeurs, Le fabuleux destin des Bernadottes. Jean-François Beige, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors, d'art et d'histoire, la Ferté-Vidame est vraiment une ville bien placée pour en parler, puisqu'il y a le château, il y a l'église, il y a une très belle chapelle. Alors, d'abord, la Ferté-Vidame, pourquoi ce nom?
Alors, elle s'appelait, cette ville, parce que c'est une petite ville, elle s'appelait au départ La Ferté-Arnaud. Et puis, lorsque le duc Claude de Saint-Simon, le père du mémorialiste, s'est installé, a reçu ce domaine ainsi que le titre de duc de Louis XIII, dont il était un protégé de Louis XIII, il a repris ce vieux titre qui était déjà devenu un titre honorifique, qui était le titre attaché à la personne qui défendait militairement un évêché. C'était le protecteur militaire, c'était le seigneur protecteur militaire de l'évêché, en l'occurrence l'évêché de Chartres. Et ce titre se baladait un peu dans le diocèse, c'était le titre de vidame. Et c'est un titre qui était resté très prestigieux. On avait abandonné l'idée d'avoir des seigneurs. Déjà au temps du duc Claude, c'était quelque chose d'assez moyenâgeux. Mais ce titre de vidame est resté. Le duc mémorialiste le plus connu des Saint-Simon, Louis de Saint-Simon, y était particulièrement sensible, parce qu'il était sensible à tous les honneurs et à tous les titres.
Eh oui. Et la Ferté ?
Alors, il a donné son nom à la Ferté-Vidame, et ce nom est resté. Voilà. Il n'a plus tellement de signification historique, mais il y a un reste de prestige attaché à ce nom.
Je crois que depuis 955, je crois, on parle de la Ferté-Vidame. On a, je crois, dans certains ouvrages, retrouvé dès 955 le nom de Ferté-Vidame.
Oui, pas Ferté-Vidame, mais sans doute la Ferté-Arnaud, parce que c'est, la Ferté, c'est une place forte. Et c'est, effectivement, ça a toujours été un carrefour intéressant, ça a toujours été un lieu de rencontre. On n'était pas très loin des voies romaines. Et surtout, c'était un lieu d'échange et de commerce avec toujours une seigneurie très importante et très bien gardée militairement. Il ne reste plus grand-chose des fortifications, pratiquement rien d'ailleurs. Mais c'était surtout un lieu de rassemblement.
Et il faut attendre, je crois, la fin du 14e, 1374, pour voir le commencement du château, c'est ça ?
Alors le château, oui, alors il est construit dans le comme on construisait au XIVe siècle, c'est-à-dire de façon encore un peu féodale. Et puis, alors il a divers propriétaires, et c'est une région qui est très affectée par les guerres de religion. Vous savez qu'il y a eu à peu près 6 guerres de religion en France, c'est quelque chose d'effrayant quand on y pense, entre 1562 et la fin, l'édit de Nantes. On a vu pendant 30 ans pratiquement la France ravagée, et nous avons été dans un fief protestant. On trouve toujours à la Ferté-Vidame. Malheureusement, on ne peut pas les voir parce qu'il y a une partie du domaine de Saint-Simon qui a été aliénée pour être, qui a été achetée par le groupe Citroën pour faire un centre d'essai. Et à l'intérieur de cette partie, très bien aménagée par le groupe PSA, c'est toujours un centre d'essai, mais ultra confidentiel.
Mais donc on ne peut jamais le voir.
Et on ne peut pas voir ces tombes, ce carré protestant. Il y a eu des tombes. Et Saint-Simon lui-même, qui était un homme très tolérant, malgré la révocation de l'édit de Nantes et malgré toute cette contre-réforme qui avait eu lieu sous Louis XIII, a toujours voulu que les protestants soient enterrés au cimetière communal et qu'il n'y ait pas de sépulture séparée.
Donc c'est Claude de Rouvroy qui va acquérir le duc de Saint-Simon qui va acheter ce château.
Oui, alors il y a une légende. On pense que Concini, vous savez, qui était favori de l'épouse de Louis XIII, en a été le propriétaire un moment. Bon, c'est Philippe Erlanger qui dit ça, mais j'en ai pas trouvé de traces écrites. Et normalement, on trouverait les traces. Non, mais en fait, le château féodal est transformé, embelli par Claude de Saint-Simon, le premier duc.
Oui, le père de...
Le père de Louis, le père du mémorialiste. Et lui commence à faire quelque chose de très agréable, une demeure assez somptueuse, qui durera longtemps jusqu'à la mort du mémorialiste. La mort du mémorialiste, c'est un homme auquel je suis très sensible, car il est d'origine béarnaise, comme moi. C'est Jean-Joseph de Laborde. C'est un peu pour ça que je me suis installé à la Ferté-Vidame, parce que je trouve toutes sortes de traces de mon Béarn, de mes ancêtres. Et alors, Jean-Joseph de Laborde, alors lui, c'est un homme résolument moderne, résolument de son temps. Il est très riche, il a été le financier de la cour. C'est un protégé de Choiseul. Il était né, par parenthèse, complètement roturier dans une famille de petits négociants de la vallée d'Ossau. C'est l'histoire de... Ça montre l'ascension de Jean-Joseph de Laborde, qui a été marquis, montre bien la force de l'ascenseur social sous l'Ancien Régime. On arrivait à être anobli, à être parfois propulsé jusqu'aux plus hautes charges, parfois avec des origines modestes. C'est pas si connu que cela. C'est pour ça que je le souligne. Malheureusement, il y a eu quelque chose qui s'appelle un accident de l'histoire qui s'appelle la Révolution française.
Alors avant quand même, il faut ça peut-être savoir que ce château a été, Laborde a confié à un architecte très célèbre, Carpentier, oui, le soin de reconstruire le château.
Alors, on pense que c'était la plus belle demeure privée, en dehors de Versailles et d'autres, la plus belle demeure privée.
Huit donjons, c'est ça.
La partie Saint-Simon avait été en grande partie rasée, carrément, on avait rasé toute la partie féodale pour faire un château moderne dans l'esprit du XVIIIe siècle et qui était absolument, dont on dit que c'était la plus belle demeure privée de France. Et il est amusant de penser que Jean-Joseph de Laborde a été assez prudent. Il n'a pas voulu qu'il lui arrive la mésaventure de Fouquet à Vaux-le-Vicomte.
Oui.
Et quand il a vu que le roi, les rois successifs, Louis XV et Louis XVI, prenaient ombrage du fait qu'il ait une aussi belle demeure, parce que c'était somptueux. Et
puis 167 pièces.
Oui, il y a reçu l'empereur d'Autriche, il donnait des fêtes absolument superbes. Mais quand il a vu que ça pouvait froisser la couronne, ben ça ne se faisait pas d'avoir une aussi belle demeure que certains, une plus belle demeure
plus belle,
que beaucoup,
oui,
de membres de la famille royale. Il a négocié avec les Bourbons Penthièvre, qui étaient des descendants des bâtards de Louis XIV, et il a quitté les lieux, il a donné sa demeure au Bourbon Penthièvre, ce qui a permis à Louis XVI de récupérer Rambouillet, qui était la demeure des Bourbons Penthièvre. Et donc, à partir de là, ce château est devenu, donc, est entré dans la famille royale par les bâtards, ce qui aurait fait frémir Saint-Simon, il a dû se retourner dans sa tombe, parce que tombe qui est à l'église normalement, même si le corps n'y est plus depuis la Révolution. Et on pense que c'est par ce don à la famille royale, officiellement ça a été acheté, mais enfin on n'en a pas la preuve, c'est comme cela que Laborde a eu son titre de marquis et est parti à suite à Méréville, à côté des Tempes, pour construire un autre château, mais plus modeste celui-là.
Alors peut-être pour nos amis qui ne connaissent pas la Ferté-Vidame, j'aimerais bien que vous décriviez ce bâtiment construit en briques et pierres.
Oui, alors le château était... on peut le voir, alors il faut tout de suite dire que comme il était tout neuf à la Révolution, il a été vendu comme bien national. Et il a été d'autant plus facilement démantelé. Il n'a jamais été brûlé ni rien. C'était un bien national. Mmh. Et des spéculateurs, parce qu'il y en a dans toutes les révolutions, il y a des gens qui profitent, l'ont démantelé. Il y a même des partis qui sont partis, qui sont allés aux États-Unis déjà. C'était très facile. Alors c'était très somptueux. Et alors on a une idée quand même de la dimension parce oui. qu'il reste les ruines. Et si vous mettez en face, vous voyez que c'est une très très belle demeure, très grande, très large. Et c'est un château très majestueux. Et les ruines sont restées majestueuses. Mais malheureusement, il y a eu une seconde avanie. Lorsqu'il a été rendu à la famille royale, ce sont les Orléans, descendants des Penthièvres qui en ont hérité, et qui ont, enfin, parce qu'ils étaient apparentés aux Penthièvres, ils descendent des Bourbons, les Orléans, mais apparentés aux Penthièvres, ils en ont hérité, et ils se sont servis de ce château comme carrière de pierre pour construire la chapelle royale de Dreux. Ce qui fait que quand vous allez à Dreux, vous apercevez qu'il y a des parties qui ressemblent furieusement au château de la Ferté-Vidame. Parce que c'est pas étonnant. Mais donc il y a eu d'abord les spéculateurs, puis après les Orléans. Ça fait un peu beaucoup.
Alors moi j'ai pu voir une reproduction, enfin une image de oui. synthèse. Et j'aimerais bien que, grâce à ces images-là, c'est très très beau, vous nous décriviez un peu l'intérieur du château.
Alors le château, il faut d'abord voir que il y a des boiseries absolument somptueuses. Mmh. Il y a ce qui est absolument rarissime à l'époque, c'est la première fois qu'on fait ça, il y a une circulation d'eau chaude. C'est-à-dire que vous avez des lavabos avec des robinets au XVIIIe siècle et des bassines d'eau chaude qui sont chauffées sur les toits. Et vous pouvez avoir l'eau chaude dans la maison pour vous faire couler un bain. Les invités peuvent faire ça. C'est assez extraordinaire. Et l'intérieur est meublé par les plus grands ébénistes. Et il y a notamment une série de tableaux assez fantastiques, aujourd'hui complètement dispersés, dus à Hubert Robert. Et donc, et les plus grands peintres de l'époque, Horace Vernet et beaucoup d'autres.
Oui, il y avait un salon ovale qui avait été fait sur deux niveaux
oui.
et qui était surmonté d'une coupole, c'est bien ça?
Absolument. Alors, on trouve les traces de la coupole. Et on a quelques images de synthèse, c'est assez difficile à décrire, mais c'était absolument somptueux. La partie, les communs du château, déjà du temps de Saint-Simon, avaient été rénovés également. Et Louis-Philippe, lorsqu'il a, dans une période où il a, après 1830, pendant la monarchie de Juillet, avait récupéré donc le château comme bien privé et il avait commencé à l'aménager et il voulait refaire le château de la Borde. Il en a été empêché par la révolution de 1848. Mais il venait régulièrement à la Ferté-Vidame. C'était l'une de ses résidences.
Et après, le château a été vendu.
Oui, alors après il a eu plusieurs propriétaires, des propriétaires privés d'abord, ensuite une œuvre du ministère de la Justice, ensuite il a été repris par l'État, puis par le département d'Eure-et-Loir, qui en est l'actuel propriétaire.
Et grâce au département, eh bien les gens ont pu venir, enfin le public.
Ça a pu devenir grâce notamment à l'intervention d'un élu très éclairé qui était Jacques de Sutour, qui était maire et vice-président du Conseil général. Et il a pu obtenir que le département acquiert ce domaine et l'ouvre au public.
Voilà.
Et profite aussi des communs du château. Malheureusement, les communs du château se sont dégradés. Et aujourd'hui, ils sont à nouveau fermés et on ne sait pas trop ce qu'ils vont devenir. On espère, il y a divers projets, dans un projet d'hôtel de luxe. Mais je pense que la meilleure solution serait de faire très rapidement des aménagements de conservation et de lui redonner sa fonction de salle des fêtes, d'époque, un peu 18e, ça aurait beaucoup de charme.
Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale. Je suis toujours avec Jean-François Beige, un historien qui évoque pour nous la Ferté-Vidame. Dans la première partie, nous avons décrit le château, les propriétaires, et maintenant il va évoquer pour nous l'église Saint-Nicolas de la Ferté-Vidame. Alors, cette église, Jean-François Beige, pouvez-vous d'abord la localiser dans le département français ?
Alors, elle n'est pas tout à fait au centre de la Ferté-Vidame, mais elle est tout près du château, parce que c'était avant tout l'église de la famille Saint-Simon. Elle avait été construite par le duc Claude, le père du mémorialiste, et c'est ce qui lui donne d'ailleurs tout à fait son originalité, parce qu'elle ne ressemble pas du tout aux autres églises de la région. Elle est en style jésuite, ce qu'on appelait...
Alors, qu'est-ce que c'est que le...
C'est le milieu du XVIIe siècle, et c'est à ce moment-là que... c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que les jésuites avaient fait des missions un peu partout, et vous avez des églises qui ressemblent beaucoup à celles de la Ferté-Vidame, dans les westerns, dans les films...
Vous imaginez
par exemple la façade de l'église de la Ferté-Vidame peinte en blanc.
Ah oui, oui.
Et vous aurez à peu près le schéma d'une église espagnole du temps de la...
Oui, parce que c'est vrai que c'est très, très original. C'est une façade en briques.
Oui, c'est une façade en briques rouges. Alors après, il y a d'autres originalités à l'intérieur. Vous avez notamment une loge ducale et une loge royale, c'est-à-dire pour le cas où le roi viendrait à la Ferté-Vidame, le duc Claude avait tout prévu, il avait fait une loge royale et il y a à côté une loge ducale. Alors ces loges, vous ne les voyez pas quand vous rentrez dans l'église. Il faut s'avancer, il faut aller pratiquement devant l'autel, et vous vous retournez, et là, vous voyez. Et en plus, elles ont des accès extérieurs distincts de ceux de l'entrée de l'église. C'est-à-dire que les personnalités qui viennent à la messe dans cette église ne peuvent ne pas du tout être vues des autres paroissiens. C'est assez original. Alors, il y a aussi un très bel orgue, qui a été refait plusieurs fois et qui est en cours de réfection. Il y a une association qui s'est fondée pour faire renaître cet orgue parce qu'il est monumental, il est très beau. Et puis l'attraction principale de l'église, c'est la pierre tombale du duc des Saint-Simon, des deux ducs Saint-Simon, Claude et Louis. Et vous savez que Saint-Simon avait demandé à être enterré près de sa femme, et que des anneaux, Saint-Simon était un modèle de fidélité conjugale, il avait demandé que des anneaux relient leur cercueil, des anneaux de fer. Sous cette pierre tombale, il y avait, parce qu'on ne sait pas, on ne l'a pas rouverte, et c'est très compliqué pour des questions d'autorisation, etc., de le faire, il y avait les deux cercueils enlacés, si l'on peut dire, ce qui est absolument original. C'était dans les dernières volontés de Saint-Simon. Il voulait que son cercueil soit attaché avec des anneaux de fer à celui de sa femme.
Et à la Révolution
Alors, à la Révolution, tout a été vidé. On pense que les restes de Saint-Simon sont allés dans une fosse commune qui est sur un des plans de l'église, et qu'il y a sans doute des ossements, mais bon, les fouilles ont montré qu'il y avait d'autres ossements, donc on ne peut pas retrouver exactement les ossements de Louis de Saint-Simon.
Bah, c'est une église, je dirais, originale.
Absolument originale, il n'y en a pas d'autres comme celle-là dans la région, très bien décorée, très bien restaurée grâce à la municipalité et au département. Et on a pu s'y retrouver non seulement pour les grandes célébrations, pour la messe dominicale, même si, comme dans toutes les paroisses, c'est pas forcément le dimanche, oui, mais c'est parfois le samedi. Mais c'est un endroit très très agréable, et qui, malgré son côté baroque, et qui respire la foi quand même.
Oui.
C'est un endroit qui élève l'esprit.
Alors, Moi, je dois dire que j'aime beaucoup la chapelle de Réveillon, qui est vraiment romane de naissance, on peut dire. Et ça, j'aimerais bien que vous nous la décriviez, que vous expliquiez, parce que
ben, elle est typique
c'est une chapelle qui mérite le détour. Et je dois dire à nos auditeurs que vraiment, cette chapelle de Réveillon, il faut y aller, c'est tout près de la Ferté-Vidame.
Oui, bien sûr.
C'est
à 4 km de la Ferté-Vidame, petit cimetière, elle est entourée d'un petit cimetière absolument charmant. C'est un très très un lieu de culte extrêmement ancien, peut-être antérieur à l'évangélisation du Perche. Et donc il devait y avoir... Il y a toujours eu, et après un petit ruisseau, c'est toujours, il devait y avoir une magie particulière de ce lieu, parce que il y a d'abord eu une chapelle romane, et puis on est, vous savez, dans ce 12e siècle, assez riche d'ailleurs, où on commence à se décroter de la féodalité, et c'est une période où on passe du roman
plus
au gothique.
Policé, oui.
Hein, alors on passe du roman au gothique dans les grandes villes. Hein, ça commence. On fait de très belles cathédrales, etc. Mais dans les petites paroisses modestes, eh bien, on essaye de faire du gothique artisanal. Et c'est très émouvant de voir comment on voit bien les transformations. Il y a toujours l'arc roman à l'entrée, mais on voit qu'il a été noyé un peu naïvement dans un ensemble architectural qui se voulait plus majestueux, qui était le temps du gothique. Donc, ça c'est le 12e, 13e, il y a quelques restes de cette époque. Et puis surtout, au 16e apparaît, au 16e siècle, apparaît... Au début du 16e apparaissent des décorations, c'est-à-dire on fait des fresques très belles, très très, mais toujours aussi naïves, parce que c'est pas des grands artistes qui viennent, ce sont souvent des artistes itinérants italiens, on suppose, hein, mais ils n'ont pas laissé leur nom dans l'histoire, et ils ont fait tout un ensemble de décors, d'images saintes. Un calvaire, un chemin de croix tout à fait original, pas banal du tout, avec des représentations. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un témoignage sur la façon dont les églises étaient dessinées, puisque vous savez qu'après, l'image religieuse a évolué, c'est-à-dire que on a plutôt privilégié des fonds neutres pour mettre des œuvres d'art fabriquées à l'extérieur des églises, tandis qu'autrefois, pendant les 10 ou 13 premiers siècles de la chrétienté, eh ben, on dessinait même les murs des églises, et même on dessinait à l'extérieur. On dit toujours que la cathédrale de Chartres était colorée, sur ses façades colorées. Eh ben, là, cette chapelle, comme elle a été badigeonnée un peu rapidement, sans doute au moment des guerres de religion, les dessins qui ont été réalisés, on pense, parce qu'on a quelques éléments de datation à l'époque de François Ier, toujours facile à se rappeler ben, grâce à 1515 et Marignan. Donc on pense que début 16e, on a dessiné cette église, puis fin 16e, on a tout badigeonné, mais on a mal badigeonné, heureusement pour nous, parce que on a redécouvert, au moment de l'inventaire des monuments historiques décidé par Malraux, on a découvert que sous le badigeon, il y avait les dessins intacts. Alors ces dessins, une fois restaurés, mais pas du tout modifiés, ils ont été restaurés comme le font les archéologues dans les cités anciennes de l'Antiquité. Ils ont tout nettoyé, ça a été un travail de plusieurs années, et maintenant on a un ensemble absolument... merveilleux, d'images naïves,
qui racontent
simples, drôles,
oui.
Alors qui font référence aussi bien à l'Évangile, évidemment, mais aussi il y a des traditions percheronnes ou beauceronnes, parce qu'on est au carrefour, comme le dit des trois morts et des trois vifs,
oui.
Qui est une merveilleuse composition. Alors, le dit des trois morts et des trois vifs, un dit, c'était comme une fable un peu morale. Alors, c'est trois, c'est pas des squelettes, ce sont des cadavres qui semblent sortir du tombeau, qui rencontrent trois beaux seigneurs qui sont à l'aise sur leurs chevaux dans des habits du XVIe siècle. Et la morale de ce dit est très simple, ce dit déité. C'est les cadavres disent au jeune seigneur, ce que vous êtes, nous l'étions, et ce que nous sommes, c'est-à-dire des cadavres, vous le serez. Donc c'est une sorte d'invitation à faire son salut, à prendre conscience de notre caractère mortel et de ne pas être trop insouciant.
Alors le deuxième tableau, c'est le miracle de la Saint-Hubert.
Oui, alors le miracle Saint-Hubert, très, très étonnant, je ne l'ai jamais vu dessiner, il est dessiné de façon très naïve normalement. Miracle Saint-Hubert, le Christ apparaît entre les bois d'un cerf,
oui.
Là ce cerf n'a pas de bois, voilà. Mais on voit bien Saint-Hubert recevant par un ange venu du ciel l'étole qui permet de guérir de la peste. Parce que on voit bien dans ces dessins naïfs du début XVIe siècle que la peste et les grandes calamités, la famine, la guerre étaient très présents, que c'était,
oui.
Les gens se retrouvaient pour prier car ils étaient un peu accablés. Il y a eu des épidémies de peste, il y a eu des guerres, c'était des temps extrêmement difficiles.
D'ailleurs, pour évoquer ce que vous venez de dire, il y a le troisième tableau qui était le jugement dernier, enfin, ou l'Apocalypse selon saint Jean.
Exactement, avec une stylisation assez parlante de la tête du Léviathan, vous savez, cet animal qui avale les pécheurs pour les recracher en enfer. Et on voit bien, c'est un jugement dernier assez, assez important, assez, et qui se trouve sur le chemin de la sortie de l'église.
Oui, vraiment une très belle église à 5 km de la Ferté-Vidame. Je dirais une chapelle vraiment un joyau, dans,
oui.
Un écrin de verdure. Alors, d'ailleurs.
Pour des raisons, oui. Pour des raisons pratiques, il faut dire que bon, les visites, puis c'est très fragile cet ensemble de dessins restaurés, donc il faut demander à l'office du tourisme de la Ferté-Vidame, l'office du tourisme dit de Lorée-du-Perche, il faut demander à faire partie d'une visite organisée, il y en a une dizaine par an, et en général on arrive à se caser dans une de ces visites pour découvrir cet ensemble de dessins tout à fait unique.
Eh bien, un grand merci Jean-François Beige. Nous avons beaucoup apprécié cette visite de la Ferté-Vidame.
Mais venez visiter la Ferté-Vidame, vous y serez les bienvenus.
Eh bien, si vous voulez nous retrouver, chers auditeurs, il faut venir sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci Jean-François Beige.